Merci Micheline. Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir proposé de m'associer à vos projets de recherche. Et puis, il faut que je remercie le programme de recherche de Bibliothèque Archives Nationales du Québec qui m'a financé pour cette exploration qui me paraît infinie des archives de la famille Palardy-Dubuc qui se trouve dans les archives de Chicoutimi. C'est en fait un travail en cours au départ sur les journaux de voyage d'Anne-Marie Palardy, qui était épouse d'un industriel du Saguenay, qui s'appelle Dubuc, et qui a été notamment gérant de la pulperie de Chicoutimi, puis député du Saguenay. Et je ne vais pas m'attarder sur la description de ces personnages. Pour nous, aujourd'hui, il suffit de savoir que c'est un couple qui va à plusieurs reprises aller en Europe entre 1907 et 1923. En fait, ils ont besoin d'y aller chaque année. Pour lui, il a besoin d'y aller pour ses affaires, en particulier pour aller chercher des capitaux et des débouchés à Londres et à Paris. Et elle va l'accompagner pratiquement tous les ans entre 1907 et 1923, sauf pendant la guerre. Et il se passe des tas de choses pendant ces voyages et j'ai choisi là juste un point de vue qui est le fait qu'ils ont l'occasion d'aller au théâtre, à l'opéra et même au cinéma au cours de ces séjours qui sont des séjours de plusieurs semaines à Londres et à Paris, parfois à Rome et parfois même des séjours de plusieurs mois. Il faut voir aussi qu'ils viennent de Chicoutimi et que pour aller en Europe, ils passent par Montréal, par exemple, ou par New York, et que quand ils sont à Montréal et à New York, ils achètent des livres et ils vont au spectacle. Alors, comme je l'ai né dans un article qui, si tout va bien, devrait paraître dans la revue de BANQ, Anne-Marie Palardy rédige des journaux de voyage qui sont aussi des lettres. Elle écrit tous les jours ce qu'elle fait et elle l'envoie par paquet à sa famille à Chicoutimi pour que les membres les plus adultes de la famille le lisent aux enfants et ça doit circuler à l'intérieur de la société. Donc, elle met en circulation des représentations qui dépassent sa simple expérience personnelle. Dans ses écrits, elle rencontre, parmi d'autres choses, des livres qu'elle lit et des spectacles auxquels elle assiste. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, c'est des mentions très brèves, mais il y a là les éléments d'une étude de réception. Et puisque ce qui nous intéressait ici, c'était la question du goût moderne, je me suis demandé comment ces journaux-lettres pouvaient contribuer à l'étude de ce qui serait la naissance d'un goût moderne au Québec au début du XXe siècle. Alors, on a des études de réception solides, mais elles sont en général fondées sur l'analyse des écrits des intermédiaires culturels que sont les critiques spécialisés. Je pense à l'ouvrage d'Hervé Gay, « L'éveil culturel, presse et théâtre à Montréal en 1898-1914 ». C'est fondé sur ce qui est publié de la part des critiques. Là, on a une approche directe de ce que serait le goût du public lui-même. Et si, là, je vais vous faire une proposition qui touche à la méthodologie, ce qu'on peut en sortir et comment on peut travailler, et si ça se révèle viable, on pourrait tout à fait imaginer de l'étendre systématiquement à un corpus plus large de récits de voyage, dans l'esprit de ce qui a été fait, par exemple, pour les voyages des Canadiens anglophones, dans un gros ouvrage sur les voyages des Canadiens anglophones en Europe, mais qui ne s'attarde pas très longuement sur les livres. Alors, pourquoi c'est intéressant particulièrement? Il me semble que le voyage place les spectateurs canadiens-français dans un cadre particulier, dans la mesure où la rencontre avec des œuvres européennes s'effectue dans un cadre social où le contrôle exercé par l'Église sur la vie culturelle n'est pas du tout comparable à ce qui se passe au Québec. Alors, par exemple, ils vont arriver à Londres et là, il va y avoir une histoire de censure sur une pièce qu'ils vont voir. Bon, mais ce n'est pas du tout la même censure pour les mêmes raisons que ce qu'ils auraient expérimenté à Québec, la ville de Québec, par exemple. Et par ailleurs, il faut bien qu'on ait en tête qu'une part des spectacles que notre voyageuse va voir à Paris ont été donnés à Montréal. C'est-à-dire qu'elle aurait pu les voir au Québec. Mais c'est en fait à Paris ou à Londres qu'elle va les découvrir. Par exemple, c'est à Londres qu'elle fait découvrir Charlie Chaplin à sa fille en 1920 et 1923. Donc, notre but, là, ça sera de voir comment les intéressés réagissent aux propositions culturelles qui leur sont faites. Ils sont tour à tour intéressés, scandalisés, émoustillés, stimulés, mais ils ne reviennent pas indemnes de leur excursion au-delà de l'Atlantique. Alors, quelques points de vue méthodologiques pour commencer. Je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans une discussion sur le mot modernité, qui par ailleurs est fondamental dans le projet collectif. Je dirais simplement deux choses. J'ai regardé l'ouvrage dirigé par Yvan Lamonde et Esther Trépanier, L'avènement de la modernité au Québec, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le modernisme. Les œuvres que je vais vous citer peuvent être considérées comme modernes dans la mesure où leurs auteurs effectuent consciemment une rupture avec les codes narratifs, littéraires précédents. Bon, ça, c'est ce qu'ils décrivent du nom de modernisme. Et la question va se poser pour nous, est-ce que la forme littéraire va les intéresser, nos lecteurs, va les mobiliser, est-ce qu'ils vont s'y intéresser? Deuxième élément, sur lequel je ne m'attarderai pas, on peut avoir une vision sociale de la modernité. Et là, j'ai utilisé toujours le livre d'Yvan Lamonde des citations dans un chapitre sur les définitions données par Paul Rutherford autour de notions centrales qu'il baptise mythe de la modernité. Par exemple, la célébration du progrès matériel cause de problèmes moraux, l'idée de nationalité comme groupe spécifique capable d'apporter quelque chose par sa spécificité même à l'avenir de l'humanité, l'intérêt pour la démocratie et sa marche triomphante à travers le monde pour purifier la politique et éliminer l'esprit de caste. Dans tous les autres papiers d'Anne-Marie Palardy, je ne continue pas, je trouve des traces de ça. D'abord, elle adore l'automobile, elle va adorer l'électricité, elle déteste l'aristocratie française, elle trouve que la société canadienne-française est un bon modèle pour l'avenir. Donc, elle appartient, c'est d'un point de vue social, à la modernité. D'accord. Donc, à la fois la modernité, le modernisme, une question d'esthétique, d'écriture et de rupture. Et d'autre part, la modernité en général, comme expérience du monde. Et ça affleure parfois explicitement. Par exemple, elle s'intéresse beaucoup à un livre écrit par l'abbé Klein. Et quand on regarde qui est l'abbé Klein, c'est l'un des protagonistes du grand conflit de l'Église catholique américaine avec Rome autour de la question de la modernisation du catholicisme. Et de la modernisation au sens propre du catholicisme. Et c'est ma dernière remarque avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est pas parce qu'aujourd'hui les modes, le catholicisme d'un personnage de 1910-1920 nous paraît désuet ou réactionnaire qu'à l'époque il n'était pas au moins progressiste. Et par exemple, le couple Palardy-Dubuc ou Dubuc-Palardy est profondément impliqué dans la doctrine sociale de l'Église et la politique sociale de l'Église. Après l'encyclique Rerum Novarum, ils vont à Rome, il est décoré de l'ordre de Saint-Grégoire. Enfin bref, la question ouvrière et son rapport avec la doctrine sociale de l'Église, il faut bien voir que quand on est en 1910, c'est quelque chose de moderne. C'est pas quelque chose, ce catholicisme-là, il n'est pas réactionnaire, il n'est pas ringard, il est moderne en 1910. Alors, regardons maintenant ce qu'elle nous dit des événements culturels qu'elle rencontre. Alors, je vais être obligée d'en couper plein. Le premier qui m'a intéressée, c'était le cinéma. Et je ne vais pas pouvoir vous raconter toutes les fois où elle va au cinéma. Mais je me suis intéressée à la pratique, pas seulement aux œuvres, mais à la pratique. Et la pratique décrite par ces journaux de voyage, ça correspond à ce qu'on sait des débuts du cinéma. Et en particulier au fait que dans les années 1910-1920, le cinéma n'appartient pas à la culture légitime, mais que le spectre social de ses spectateurs est très large et va des milieux populaires à la bourgeoisie, même à la assez grande bourgeoisie, incluant adultes et jeunes enfants, jeunes gens, voire enfants. Et par exemple, avant 1914 à Londres, Anne-Marie Pallardy et son mari sont reçus richement dans la grande bourgeoisie industrielle anglaise qui les emmène à l'opéra, qui les emmène à Covent Garden. Mais quand ils sont libres une fin d'après-midi et qu'ils sont tout seuls, ils vont voir les vues, tous les deux. Et elle explique que ça lui a plu, c'était drôle. Donc on voit bien que le fait que ça soit drôle est une caractéristique. En revanche, ce qui est aussi caractéristique du cinéma, c'est qu'on ne donne jamais, elle ne donne jamais le nom du film et bien sûr, encore moins celui du réalisateur. Le film n'est pas une œuvre. Mais le cinéma est un loisir urbain et là, on sait que le cinéma comme loisir urbain appartient à la modernité. On voit aussi comment le film va émerger en tant qu'œuvre. Quand en 1920 puis 1923, elle voyage avec sa fille qui a une vingtaine d'années et qu'elle l'emmène au cinéma pour qu'elle voie les films de Charlie Chaplin qu'elle ne connaît pas. Et elle, manifestement, là, le film a un auteur, Charlie Chaplin, et le film qu'on va voir, on va le voir parce que c'est une œuvre de Charlie Chaplin, et le voyage en Europe est l'occasion de prendre contact. Alors j'imagine qu'on voyait facilement des films de Charlie Chaplin à l'époque à Montréal, c'est à vérifier. En revanche, il est probable qu'on n'en voyait pas chez Goutimont. Voilà. Il faut voir aussi que cette première vision des films de Charlie Chaplin, elle trouve ça ridicule, c'est pas une œuvre. Comment est-ce qu'on peut donner des milliers de dollars à cet homme? Et puis, la deuxième fois, si, ça vaut la peine de se déplacer pour que sa fille au moins voit une fois. C'est devenu une œuvre, c'est devenu un auteur. Donc ça, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui peut rentrer dans notre recherche de la modernité. Donc, premier test, ça marche. Ça vaut la peine d'adopter cette démarche. Maintenant, passons à la deuxième question, celle des livres. Alors, elle se pose dans des termes intéressants. D'abord, parce que les voyages sont des occasions de se procurer des livres. Elle habite Chicoutimi, rappelez-vous, et Chicoutimi, 1911, c'est pas du tout évident, il y a une ligne de chemin de fer, mais en hiver, le fjord est gelé, c'est pas du tout facile elle voyage plutôt en hiver. Donc, Anne-Marie fréquente une librairie à Montréal, dont j'ai le nom, mais elle achète des livres à la librairie française de Londres et elle décrit qu'elle y va. Et à Paris, elle dit par exemple le 11 mars 1914, hier après mon déjeuner, je suis allée chez Hachette où j'ai trouvé une foule de livres français, va sans dire. Pour Marie surtout. Marie, sa fille de 20 ans. Je n'ai pu trouver la partition de Parsifal en français, je l'ai eue en anglais. Donc là, on voit, c'est bien efficace, nos journaux de voyage, on voit bien arriver concrètement des éléments culturels. À Paris, elle va demander au neveu de Louis Veuillot de la conseiller et de lui donner une liste de livres qu'elle peut acheter. Il en profite pour lui refiler l'un des siens, Montmartre. Et bizarrement, le seul type de livre dont il est dit spécifiquement qu'on va aller chercher à Paris parce qu'on ne peut pas les trouver à Chicoutimi ou au Québec, jamais elle ne dit « je vais acheter ce livre parce que je ne pourrais pas le trouver au Québec ». C'est parfois implicite, mais elle n'en cite aucun, sauf un type de livre, c'est « Il faut rapporter pour son fils qui est au séminaire des éditions des pièces de Molière adaptées pour séminaire ». Et vous venez de me dire, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux dans Molière qui fait qu'on ne puisse pas le donner à des chastes oreilles de séminaristes? Et puis non, c'est parce qu'il faut qu'il y ait que les rôles masculins. Voilà. Comme quoi, il faut venir aux réunions des groupes de recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans tous, elle, par ailleurs, elle lit pendant ses voyages, surtout pendant les voyages en bateau. Puis aussi quand elle s'ennuie, enfin, différents moments, j'ai pas le temps de rentrer dans l'anthropologie de la lecture, mais on peut faire tout un, voir à quel moment elle lit et pourquoi. Et, on peut s'intéresser aux critères de jugement. Qu'est-ce qu'elle va énoncer comme jugement sur les ouvrages, les livres qu'elle lit? Alors, je ferai, avant de prendre des exemples, je ferai deux remarques d'ordre général. La première porte sur la nature du regard critique qu'Anne-Marie Pallardy porte sur les ouvrages qu'elle lit, et l'autre va porter sur une caractéristique qui est commune à la plupart des ouvrages qu'elle mentionne. Alors, première remarque, la nature du regard critique qu'elle porte sur les livres qu'elle lit. Ce regard, il est complètement informé par un jugement moral. Dans ses lettres envoyées à la famille et aux enfants, il n'y a pratiquement jamais de jugement d'ordre esthétique. Donc, ce fameux modernisme qui est lié à une rupture dans la forme de l'écriture, mais il n'est pas valorisé du tout. Ça l'intéresse pas. La dimension du modernisme qui se rapporte à la forme des œuvres n'est pratiquement jamais mentionnée. Et ce qui est sous-pesé, évalué, c'est le message moral véhiculé par l'ouvrage. Et cela a des conséquences directes, on va le voir, sur les pratiques de lecture. Un ouvrage suffisamment moral, mais on va voir que c'est à raffiner comme jugement, sera remis en circulation, passé à son mari, transmis à ses filles, et un ouvrage insuffisant à cet égard sera purement et simplement jeté à la mer. Et quand elle, je ne sais pas si vos voyageurs français font ça, mais quand un ouvrage est un peu trop risqué, entre guillemets, c'est le mot de l'époque, pour les jeunes, et pour pas qu'il risque de tomber dessus, eh bien on va le jeter à l'eau du pont du bateau. Mais cette utilité morale, et on va y revenir, n'est pas une donnée simple à cerner, et là aussi, gardons-nous du jugement rétrospectif, de la projection de nos valeurs sur ces ouvrages parfois insipides du début du siècle. Cette moralité évolue et elle est intégrée à la question de la modernité. Deuxième remarque générale avant de prendre des exemples que j'avais annoncés. Il y a un objet central dans tous les livres dont elle parle, pratiquement sans exception, c'est la famille. Et d'une façon plus générale, les relations interindividuelles à l'intérieur de la famille. Je n'ai pratiquement pas trouvé un seul ouvrage dont elle parle suffisamment qui ne soit pas consacré d'une façon ou une autre à la famille au sens large. Ça peut être les mémoires d'un enfant de Pierre Loti, ça peut être une pièce risquée, on va voir, une question d'adultère et de suicide. Mais toujours, c'est comment est-ce qu'on se conduit dans une famille quand on est une femme infidèle, un mari trompé, un père de famille sérieux, avec quelques éléments qui touchent la position de l'industriel, donc à la responsabilité de l'industriel dans la société. À l'intérieur, on peut faire deux sous-ensembles à l'intérieur de ce thème de la famille. Le premier est celui de la décision du mariage. Et la question alors peut avoir plusieurs types de résolutions. Le mariage, le célibat ou la vie religieuse. Et c'est un thème fort, me semble-t-il, de la littérature québécoise et surtout de la littérature de soi, puisqu'on est dans un sous-ensemble précis, depuis Angélique de Montbrun. Et donc, j'ai acheté Angélique de Montbrun et je me suis rendu compte que ce que je lisais de la plume d'Anne-Marie Palerdi était tout à fait du même ordre que ses lettres de fiction, mais d'une fiction très enracinée, je crois, dans l'expérience personnelle de l'auteur, qu'il y a dans ce roman fondateur de la littérature québécoise. Et il est intéressant de se voir que tout se passe comme si Anne-Marie Palardi sélectionnait dans la littérature du temps les ouvrages de ce type. Peut-être pas pour les lire, mais en tout cas pour en parler à ses enfants et à sa famille. L'autre thème dominant dans ce sous-ensemble de la famille est toujours lié à la question du secret et aux altérations des formes de la famille. Secret de naissance, secret de l'adultère, secret de la paternité, suicide. Dans presque tous les cas, il s'agit autour de ces questions, l'adultère, la paternité cachée, le suicide, la maternité illégitime, il s'agit de discerner une ligne de conduite. Et je pourrais faire l'hypothèse que tout se passe comme si la littérature était ici un énorme réservoir d'études de cas moraux soumis à l'évaluation, voire à la discussion des lecteurs. Comme si la lecture était l'occasion d'un énorme exercice de casuistique. Exercice de casuistique dont je sais par ailleurs, parce que j'ai travaillé sur sa formation religieuse, qu'elle y est extrêmement entraînée par aussi l'habitude des retraites. Et j'ai d'autres documents, de papiers qu'elle écrit, où elle examine avec vraiment les techniques de la casuistique, hein, l'étude des cas dans la pensée catholique, le pour, le contre, est-ce que on doit, si on prend telle décision conforme à la morale, on va arriver à un résultat encore plus grave, encore plus loin de la morale, donc est-ce qu'un moindre mal est mieux et préférable à une décision formellement, obéissant formellement aux lois de l'Église, c'est ça la casuistique. Eh bien, il me semble qu'elle considère les livres qui l'intéressent comme un énorme réservoir de casuistique. Et je compte sur mes collègues pour me dire si c'est habituel et banal dans la culture québécoise. Enfin, on notera que ces pratiques de lecture s'inscrivent dans ce que l'on sait des pratiques du temps. La lecture est considérée comme potentiellement dangereuse. Et si la lecture est dangereuse, c'est qu'on fait l'hypothèse que le texte possède une efficacité. Il peut montrer des modèles ou des contre-modèles de conduite qui sont susceptibles d'entraîner des conduites d'imitation. C'est le fondement rationnel de la censure et ça conduit à hiérarchiser les lectures et les lecteurs. Par exemple, face à un livre qui s'appelle « La geôle » de Paul Bourget, Anne-Marie va considérer que l'ouvrage est très intéressant pour des adultes, mais « impossible », entre guillemets, vous avez le texte, pour ses filles. Et donc, le conseil des amis et une certaine expérience sert de guide. Et là, on trouve soudain une autonomie du lecteur, une autonomie parce que, en tant que mère de famille, elle a la responsabilité, mais le pouvoir, de contrôler les lectures des autres. Et elle a l'exercice de casuistique à faire pour comprendre si ce livre vaut la peine d'être donné, il fera du bien dans sa perspective, ou bien s'il est trop dangereux ou inutile. Alors, comment revenir à la question de la modernité dans ce contexte ? On peut se demander qu'est-ce qui va être retenu comme intéressant à lire et pourquoi. Et ça va m'amener à faire une très brève typologie des lectures d'Anne-Marie Palardy, dans lesquelles je distinguerai pour l'instant trois types d'ouvrages. D'abord, une pratique traditionnelle de la lecture pieuse. Alors, ça ne serait pas reflété dans leur entier ces pratiques, celle de l'épouse Anne-Marie, mais même celle de son mari, que de passer sous silence la pratique traditionnelle de la lecture pieuse. Par exemple, alors ça débouche pas toujours sur des tristes mortifications. Je vais vous dire ce qu'elle dit de sa lecture de l'Imitation de Jésus-Christ. Ça me semble déboucher sur un tendre débat conjugal. On est le 26 mai 1923, il fait très beau sur le paquebot. Quel merveilleux soleil, quelle délicieuse température. Après une nuit bien reposante, par une mer à peu près d'huile, je commençais ma journée à 8 heures par mes prières, lisant à haute voix un chapitre de l'Imitation pour mon cher mari. Par malheur pour moi, puisque je lisais fort, le chapitre était sur la patience. Hélas, j'ai eu fort ce commentaire de la part de mon époux. Tout de même, nous en avons bien tiré notre profit. En 1913, en revanche, elle est plongée dans la liturgie des heures, et je ne sais pas pourquoi, elle est plongée dans la liturgie de la dédicace des églises, je ne pensais pas que c'était passionnant à ce point, et elle refuse d'aller se promener. Je terminais la longue lecture de ma chère liturgie sur la dédicace des églises, et je finis mon livre commencé la veille. Et là, elle refuse d'aller se promener. Donc, une pratique de la lecture pieuse qui informe aussi la vie conjugale, plus conjugale que familiale. Elle se hasarde jamais à faire des lectures pieuses à ses enfants. Je pense que parfois, la lecture pieuse avec son mari finit pas du tout de façon pieuse, d'après certains indices. D'autre part, elle va lire des livres convenables, catholiques et bien-pensants. Alors, c'est beaucoup plus fréquent, les mentions de lectures profanes, imprégnées d'un esprit conservateur. Par exemple, lors d'un voyage de 1923, il fait beau, Anne-Marie n'a pas grand-chose à faire. « J'ai lu, écrit-elle, de très jolies choses à bord du Daudet. » Je pense qu'elle l'a emprunté à la bibliothèque du bord. De même, le roman d'un enfant de Pierre Loti, qui lui plaît beaucoup, je l'ai lu. Ça explore des tas d'émotions d'enfants, dont des émotions pas forcément légitimes. Par exemple, la jalousie vis-à-vis d'une petite sœur. C'est pas si soft que ça, le roman d'un enfant de Pierre Loti, quand on le lit. Elle va aussi lire des ouvrages qui vont poser de façon particulière la question de la modernité. Des ouvrages qui témoignent de l'actualité de la pensée catholique ou de la rénovation des formes esthétiques qui lui sont liées. Et là, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont des ouvrages contemporains que des ouvrages modernes. Et je vais prendre un exemple. Lors du voyage de 1920, Anne-Marie Palardi lit Le Bréviaire au soleil de Henry James, qui l'enthousiasme. Je lis. Samedi 6 novembre. Il est 1h moins le quart. Je viens de terminer une lettre de remerciement à Madame Rivard. J'ai pas encore identifié Madame Rivard. Pour un livre merveilleux qu'elle m'a passé en venant me souhaiter bon voyage. Le Rosaire au soleil de Francis James. Quelle belle lecture spirituelle. Commencée au matin à 6h30, je l'ai terminée à midi. De l'avoir tout lu d'un trait vous dit assez le charme que j'ai goûté à sa lecture. Je vous assure, ma chère Nan, que vous jouiriez aussi en dégustant ces pages écrites par un consul à Londres. J'avais déjà lu du même auteur des pages, hélas, bien moins édifiantes, pour ne pas dire plus, probablement écrites avant sa conversion. Le livre est rendu dans la chambre des jeunes filles. Je souhaite que ma fille le goûte autant que sa mère. J'en doute. Alors moi, j'ai lu le Bréviaire au soleil. Dimanche en 15, c'était le grand week-end, les archives étaient fermées, mais la bibliothèque littéraire de l'université Chicoutimi était ouverte, il pleuvait à verse, et j'ai lu Le Bréviaire au soleil, paru au Mercure de France en 1920, avec un tirage indiqué de 20 000 exemplaires. C'est un grand ouvrage de la pensée catholique. C'est intéressant pour les chercheurs de savoir que s'il se trouve à la bibliothèque de Chicoutimi, c'est que celle-ci a eu l'intelligence, peut-être parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de livres, de ne pas désherber, et qu'on y trouve transportés en bloc les ouvrages de l'institution Saint-Joseph, qui était l'ancienne école normale d'institutrices. Donc on y trouve des ensembles d'ouvrages qui ailleurs ont été détruits ou dispersés. Les œuvres de François Copé, de Paul Bourget par exemple. Et alors l'ouvrage, il est construit sur un plan inspiré de la succession des mystères du rosaire. C'est le plan du rosaire, dit l'auteur, que j'ai adopté pour cette histoire poétique. Le récit est imprégné d'une sentimentalité catholique prononcée. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est encore une novation formelle. C'est manifestement un travail d'écriture. C'est aussi un personnage un peu nouveau, puisque c'est une héroïne autonome, que le récit rend autonome, elle prend le train toute seule, elle dispose de sa fortune, un bon oncle opportunément lui sert de caution masculine et fait absolument tout ce qu'elle veut. Donc c'est une femme autonome. Et en fait, c'est une sorte de figure de la Vierge Marie, puisqu'elle apparaît en jeune fille bienfaitrice dans une pauvre maison d'un petit enfant orphelin dont le père est en train de mourir. Elle ne dédaigne pas de faire les travaux les plus mesquins, presque Marthe, fait la vaisselle, etc. Et en même temps, elle apporte la solution au problème de tout du petit orphelin laissé seul dans sa maison. Et à la fin, elle abandonne son mariage, son projet de mariage, pour rentrer dans les ordres. Donc elle est elle-même une sorte de vierge. Et ça commence à Lourdes, elle apparaît au petit garçon dans la misérable cuisine de sa maison. Donc on voit bien qu'il y a là à la fois un propos conservateur, un récit qui est un petit peu de l'ordre de l'ancien mélodrame, dans la mesure où les personnages sont schématiques, qui n'ont aucune épaisseur psychologique. Ils représentent l'orphelin, le père mourant, l'oncle bienfaiteur, bon, la vierge bienfaisante, ils ont pas d'épaisseur psychologique, mais il y a quelque chose, une recherche formelle qui correspond aussi probablement à une espèce d'esthétique du catholicisme qui est celle des années 20 et dont on voit bien là qu'il rentre en résonance avec elle. Enfin, je vais parler maintenant d'une troisième catégorie de livres. J'avais annoncé trois catégories. Les livres qui donnent à réfléchir, mais qui sont impossibles. Alors, parmi ces livres, les ouvrages de Paul Bourget. Et vous avez la longue citation que je vais vous donner. Alors, Paul Bourget est un écrivain qui est alors extrêmement répandu. Il suffit de voir ce qu'il a laissé dans les bibliothèques, et pas seulement à Chicoutimi. Il a comme caractéristique, d'une part, d'avoir rompu avec le naturalisme comme mode de description de la société, et d'avoir élaboré une approche différente dont, j'espère ne pas me tromper, l'ambition est de fonder une psychologie sociale des comportements. Oui, on pourrait dire ça. Et par ailleurs, il s'est converti au catholicisme, Mais ces romans se passent fréquemment dans des familles de la haute société française ou européenne et relatent des comportements les moins recommandables, adultère, suicide, jeu, détournement d'argent, duel. Alors pour cette raison, ils mettent très mal à l'aise les censeurs officiels de l'Église catholique, parce qu'ils offrent une casuistique, une étude de cas qui normalement se résout dans le cadre catholique, mais les endroits où le récit place ces cas sont absolument hors du registre et du champ de ce qui est dicible, de ce qui est montrable. Alors, que lit Anne-Marie de Paul Bourget ? Le premier, c'est Laurence Albany. Je l'ai lu aussi ce dimanche triste à Chicoutimi. Alors, ça a une trame très traditionnelle. Je ne vais pas vous en parler, mais là aussi, il y a une jeune fille qui fait le bon choix. Au lieu d'épouser le noble qui, en fait, ne l'aime pas vraiment et qui est un peu débauché, elle va reconnaître dans le paysan infirme qui l'aime, celui auquel elle est destinée. Et malgré sa condition supérieure, elle lui manifestera qu'elle veut bien l'épouser en allant lui préparer son repas chez lui dans son humble demeure et en le lui apportant au champ, comme Ruth, je crois, a dû apporter au champ. Donc, Laurence Albany, c'est moderne dans la mesure où il y a un arrière-plan régionaliste, je dirais, ça se passe en Provence. Dans les années 20, le régionalisme, ça fait figure de nouveauté. Mais La Geôle, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça va poser la question des lectures légitimes. Alors, quoique jugé très intéressant, le volume est en effet jeté par-dessus bord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce sort ? Le roman qu'on trouve aussi, c'est intéressant, dans la bibliothèque de l'institution Saint-Joseph à Chicoutimi, donc il n'a pas été, il a été mis entre toutes les mains, raconte l'histoire suivante. Un jeune homme qui travaille pour un homme politique français des années 1870, faudrait... trop compliqué de rentrer dans les détails, mais c'est le moment de l'ordre moral, se fait dérober un papier compromettant et, pensant avoir encouru les foudres du ministre, il se suicide. Un grand médecin qui représente la médecine française des années 1870 indique à sa veuve qu'il a une disposition héréditaire et que, au suicide, et que si elle ne veut pas que son petit garçon se suicide lui aussi, il faut qu'elle lui évite de se retrouver face à une situation pouvant le conduire à cette extrémité. L'enfant se grandit, se marie. Je suis obligée de vous raconter l'histoire puisque c'est de la casuistique. Sa femme le trompe et son deuxième enfant n'est pas de lui. Lorsque la mère, la vieille dame, apprend que sa bru a fait un enfant avec son amant, elle décide de cacher ça à son fils pour ne pas le soumettre à une tension extrême qui l'entraînerait à se suicider. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, de savoir quel est le moindre mal. Donc elle va faire une chose qui n'est pas morale, abriter un adultère dans sa propre famille, pour une raison sur le fond morale, ne pas pousser son fils au suicide, qui serait un mal plus grand que de cacher l'adultère. C'est typiquement de la pensée religieuse, de la casuistique, savoir peser le mal. Il ne faut pas, en voulant éviter un petit mal, causer un mal plus grand. C'est ça la logique de fond. Et lui, quand il apprend ça, il est désespéré à cause de la trahison de sa mère. La femme s'enfuit en Amérique avec l'enfant et l'amant. Finalement, il renonce à se suicider. La femme meurt en Amérique, c'est normal. Et l'enfant, dont la loi le fait le père, il la reprend. Donc, il prive le père naturel, l'amant, du plaisir d'avoir son enfant avec lui, puisque... Donc c'est quand même assez méchant de sa part. Mais c'est pour que les enfants grandissent ensemble et qu'ils soient dans le... Et le secret ne sera jamais dévoilé. Et La Geôle, ici, c'est la prison de l'hérédité dont le héros s'extirpe avec le secours de la religion et sa propre force d'âme. Et quand je dis le héros, en fait, je me trompe. Le héros, c'est une héroïne, c'est la mère. C'est celle qui cache l'hérédité du suicide. Et c'est à elle que se pose le dilemme. Alors, c'est bien écrit, mais c'est risqué, comme on dit à l'époque, et ça multiplie les situations immorales, dettes de jeu, rencontres amoureuses clandestines très longuement racontées, mensonges, refus de se plier au devoir conjugal, en plus, elle refuse de faire son devoir conjugal. Et alors, c'est un ouvrage qui passionne le couple Dubuc. Elle l'a acheté à Montréal, c'est intéressant. Avant de partir. D'ailleurs, dans la même page, elle revient de la messe et dit « Ici, les gens à Montréal, ils ne sont pas aussi pieux que nous. » Les gens de Chicoutimi ou de Québec, il n'y avait pas grand monde aux vêpres. Ils ne sont pas terribles à Montréal. Et elle écrit Je viens de terminer le 17 juin, le jeudi, la lecture du dernier Bourget, La Geôle, toujours de très fortes thèses, mais dans un monde interlope, impossible à mettre entre les mains des jeunes gens. Affreux, très intéressant quand même. Elle continue quelques jours plus tard sur le bateau. Mon mari vient de finir la lecture du dernier Bourget, La Geôle, curieux tout à fait sur l'atavisme, l'hérédité. Très attachant à lire, mais sujet à critique, va sans dire, surtout de la part de mon cher conjoint. Il est plutôt intransigeant. Avec cela, mes collections vont tout à l'eau. J'ai bien peur que celui-ci voie la profondeur des mers. Tout de même, il a passé des heures très intéressantes à le lire. C'est toujours ça. Il me semble, et j'en suis sûre, nous devons, à notre âge, lire ces choses pour pouvoir le discuter et étudier et pouvoir donner à bon escient un conseil et un avis. C'est de l'étude, voilà tout. Donc je vous laisse analyser en détail cet ensemble d'arguments subtilement attachés. Alors, les fortes théories en question, c'est les théories sur les hérédités, développées au début du volume par le médecin, mais là on notera l'habileté de Paul Bourget. C'est pas un roman banal, un roman un peu niaiseux, je me suis pas ennuyée moi en le lisant. Parce que le récit n'illustre pas l'exactitude des théories données au départ, mais au contraire leur échec. Et le personnage principal, la vieille dame, se conduit de façon erronée pendant tout le roman, en cachant, en croyant la théorie que l'hérédité va s'imposer, parce que le médecin, et alors là c'est la vengeance de Bourget contre les naturalistes, le médecin qui lui a imposé cette théorie de l'hérédité, il se trompait. Et Bourget n'est pas Zola. Et Bourget nous prouve que Zola avait tort dans son roman. Et évidemment, c'est un roman où il y a beaucoup plus de choses à lire que Le rosaire au soleil. Et on revient là à ce que je vous disais, de la casuistique. La vieille dame est confrontée à des cas de conscience. Les personnages doivent évaluer correctement une situation, déterminer la bonne conduite. Et on notera que si les secours de la religion sont présents, ce ne sont pas les ecclésiastiques qui dictent leur comportement aux personnages. Et par ailleurs, les personnages sont complexes. Par exemple, le seul couple réellement amoureux, ce sont les amants. Et en cela, ils ne sont pas illégitimes. Parce qu'ils sont des bons parents. Ils aiment éperdument leur petit enfant. Les conduites répréhensibles, comme ne pas dénoncer un adultère, est justifiée. En fait, il y a de la complexité et des enjeux. Et... je pense que c'est ça qui fait que c'est un roman qui est considéré comme intéressant. Et il se trouve qu'Anne-Marie Palardi va se retrouver dans une situation un peu du même ordre. Quand dans les années 20, elle va être conduite à voir si sa fille peut se marier dans une famille de la grande aristocratie parisienne. Et où elle va découvrir des secrets de famille, des choses, pas du tout, correspondant pas du tout à la vision classique d'une famille pieuse et catholique, et où elle va découvrir, elle va se retrouver dans une situation romanesque, à devoir comprendre les interactions, comprendre les stratégies, et où il n'y a pas de morale en jeu. Il faut tirer son épingle du jeu en essayant de ne pas perdre complètement son âme, et ils ne vont pas y réussir complètement. Et il me semble que là où le secours d'un directeur de conscience n'est pas disponible, le roman peut remplir cette fonction. Alors, on verra plus loin d'autres thèmes que je n'ai pas le temps de développer. Par exemple, comment elle réfléchit avec son mari à ce qu'est le véritable type de l'Américain, ou bien le bon modèle de l'homme d'affaires. Elle dit « J'ai lu hier L'homme de la mer par le vicomte de Vogüé. Superbe, mon mari en fait ses délices actuellement. Étude de caractère, sur tous les héros, l'idéal de l'Américain. » Je doute s'il existe. Ou bien, elle dit en 1910, « Je suis à lire « Soyons un homme ». Papa, elle l'écrit à ses enfants, là, me disait hier, « Je veux que Vincent de Paul l'apprenne par cœur pour l'avoir plus sûrement dans le cœur. Ce livre est supérieurement écrit et facile, bien facile à comprendre, même à ton âge, si tu veux bien l'étudier un peu. » Donc là, aussi, autre versant où le livre sert de modèle de vie. Alors, j'en viens maintenant à ma dernière partie, beaucoup plus brève, sur la question du théâtre. Alors, la question du théâtre, elle est plus complexe encore, parce que la décision d'aller au théâtre n'est pas aussi libre que celle de prendre un livre. Et non, ils vont être en particulier soumis à des spectacles, à Paris, des spectacles. Elle dit glissez mortel. N'assistons point des revues assez libertines vers 1909-1910. Elle va pas aimer ça du tout. Donc, on voit que les Québécois sont exposés à des choses qu'ils n'iraient pas voir d'eux-mêmes, et surtout pas au Québec, et qui n'existeraient pas. Il y a la question du discernement. Comme il y a des livres qu'elle donne à ses filles et d'autres qu'elle jette à l'eau, il y a des pièces qu'elle accepte d'aller voir, mais il faut que les jeunes filles restent à l'hôtel. Ou bien qu'elle renonce à aller voir en disant on ne peut pas y aller avec les filles, donc on n'ira pas. Alors là, il faut de l'expérience. Par exemple, la Comédie française, normalement, c'est bon. Oui, sauf que des fois, elle a des surprises, il y a des changements de programme. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On va voir la même chose avec un point fort sur les spectacles distrayants. Le théâtre a plus le droit d'être distrayant que le livre. Elle dit, il y a des comédies sottes mais drôles. Hier, Marie a passé toute la journée au lait. Là, elle est à Montréal. Hier soir, toutes les deux, nous sommes allées au Capitole rire à mourir d'une comédie sotte mais si drôle. Donc là, c'est permis. Ou bien, nous descendons d'aller, elle est à Paris, à la Comédie française. Entendu l'ami Fritz jouer avec Ferrandi. Nous nous sommes très amusés. La pièce a été jouée de main de maître. Comme toujours, nous avons bien ri. Il y avait une levée de rideau avec des vers de Musset merveilleusement débités. Musset et la muse. Il faudra voir cela, les relire à la maison. Le programme était pourlieux, tel malade imaginaire. Mais une fois là, c'était plus ça. Mais nous nous sommes bien amusés. Donc, rire est important. Il faut aussi avoir élevé la pensée vers des sujets graves. Pendant le dîner, nous demandons ce qui se joue à la Comédie française. C'est Ésope de Théodore de Banville, pièce en vers splendide, pleine de graves leçons et très élevée. C'est Ésope chez le roi Crésus, je vous raconterai cela au long une fois à Rome. Et elle achète des livres ou des textes de pièces pour pouvoir les ramener. Enfin, je termine avec les pièces qui, comme les livres de Bourget, posent un problème. Et par exemple, on peut s'intéresser à une pièce qui s'appelle « La Vierge folle », qui est une pièce peu banale, qui se passe dans le même genre de milieu que le livre de Bourget. Je vous raconte l'histoire en peu de temps. Si vous voulez en avoir un compte rendu extrêmement drôle, allez à la Bibliothèque nationale du Québec et regardez le Times en ligne, les archives du Times. À la date du 18 novembre 1911, il y a une extraordinaire critique, très longue, et deux articles parce qu'il a été censuré. Elle a été censurée, cette pièce. Elle n'avait pas le droit d'être... Puis finalement, le censeur est revenu sur sa décision. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est un viveur parisien, j'ai presque fini, un viveur parisien qui a une femme qu'il aime et qui a débauché la fille de ses amis. Donc, il est aussi aimé d'une très jeune fille qu'il a totalement compromise. Et il se demande pendant toute la pièce s'il va abandonner sa femme ou abandonner la jeune fille. Et il finit par décider qu'il vaut mieux abandonner sa femme parce qu'il a des devoirs plus importants vis-à-vis de la jeune fille. Donc il réinterprète tout en termes de devoirs. Ses devoirs vis-à-vis de la jeune fille sont plus importants, comme dit le critique du Times, les devoirs envers la plus jeune sont plus importants que les devoirs envers la plus vieille. Mais tout est résolu, heureusement, par un coup de revolver, comme dans toutes les pièces du temps. Le frère mécontent de la jeune fille arrive pour revolveriser le dandy, et la jeune fille se dévoue, elle se saisit du revolver, et elle se tue elle-même, résolvant la question jusqu'à la prochaine pièce, dit le critique du Times. Alors, que pense Anne-Marie Palardy de cette pièce? Elle dit, c'est risqué. Heureusement qu'on n'a pas emmené la jeune fille, mais enfin c'était des bonnes questions. Il y a eu tout un débat moral et c'était très intéressant de voir tous les points de vue. Bon, d'accord, la situation était c'est gênant. On ne devrait pas être exposé à des choses qui se passent dans ces milieux-là. En plus, il y a de l'argent perdu au jeu, mais le débat moral l'intéresse. Et ça me ramène à ça m'amène à ma conclusion, qui va revenir en boucle sur mon hypothèse de départ. Il me semble qu'effectivement, tant dans les pièces que dans les romans, ce que je vais trouver dans ce qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt une interrogation sur une sorte de mise à jour ou d'autonomie du jugement qui se fait pas directement là sous le regard des clercs dans la question des relations interindividuelles, de la forme de la famille, des choix de vie. Et que c'est si on va lire, et là j'arrive à la question de méthode qui était dans notre objet, hein, puisque t'as un séminaire, si on va lire les textes originaux, c'est-à-dire si on lit les mêmes livres que ceux qu'elle lit, on s'aperçoit que leur contenu est plus complexe, que les questions qu'elle pose une fois recontextualisées sont plus intéressantes, moins linéaires, moins sommaires que ce que nous donne un point de vue rétrospectif qui, par exemple, a mis dans les poubelles de l'histoire aussi bien Paul Bourget que François Copé, que la plupart de ses auteurs favoris. Parce que si, j'espère, j'ai pu vous intéresser un petit peu avec ces récits, au départ, je me t'ai dit, mais attention, je fais la liste de tout ce qu'elle lit, ce ne sont que des auteurs qui ont disparu du corpus des livres qu'on lit, qui sont devenus démodés, qui ne sont plus lus et qui sont même mal considérés de façon simpliste, à mon avis. Et donc, ce modernisme ou cette modernité, si on va la chercher, il faut bien voir s'il y a une modernité qui a été liquidée dans la culture québécoise à un moment donné et qui donc, pour nous, est un pur objet d'histoire. Voilà, je m'arrêterai là.
Peut-être tout de suite passer à l'intervention de Gérard.
Tout d'abord, merci Micheline de m'avoir invité à ce séminaire. Je suis quand même régulièrement les débats au sein du groupe PHVC, dont le dernier, j'ai imprimé la rédaction de la synthèse de la réunion du 26 août. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur la question de la modernité, d'abord parce que c'est une question un peu délicate par rapport aux journaux de voyage, notamment ceux sur lesquels je travaille. J'ai rédigé à la demande de la revue Recherche géographique une recension d'un ouvrage sous la direction de Denis Saint-Jacques et l'artiste Essélieu, Les régionalismes de l'entre-deux-guerres face à la modernité. Et j'ai exprimé dans les lignes et entre les lignes, le rapport assez ambivalent et je dirais assez critique que j'ai par rapport à cette notion. Je vais donc pas m'étendre là-dessus, même si elle est, je crois quand même, cardinale dans le groupe. Mais je crois qu'il est intéressant, même sous un aspect critique, ce qui est fait dans le groupe, de l'aborder. Je voudrais dire d'abord, je vais faire quelque chose de très décousu, beaucoup moins structuré que Catherine, parce que d'abord, je viens d'arriver au Québec et que je suis assez fatigué. Donc c'est la symétrie inverse par rapport au récit de voyage, mais aussi par rapport à nos voyages respectifs. Et aussi parce que c'est un embryon là de projet qui consisterait, si tout se passe bien, à réaliser un numéro thématique de la même revue à laquelle je faisais allusion précédemment, c'est-à-dire Recherche géographique, sur les journaux de voyage. Journaux de voyage étant une partie de ce qu'on peut appeler sous un titre générique, les récits de voyage qui, quand même, renvoient à une catégorie plus large que journaux de voyage, même si parfois il est difficile d'identifier un journal de voyage à proprement parler. Cela dit, bon, moi, j'ai essayé de faire une proposition de définition. Qu'est-ce que j'entends par journal de voyage? Ce sont des écrits qui sont publiés du vivant des auteurs de façon posthume ou encore non publiée, ce qui est le cas de Anne-Marie Palardy, j'imagine. Mais peut-être que grâce aux travaux de Catherine, ils seront publiés, ou en partie ou en totalité, qui comportent des indications chronologiques précises et fiables, et à commencer par un ordre de succession de type factuel. Même si cet ordre peut découler d'une déconstruction savante ou d'une distorsion plus ou moins involontaire de la chronologie réelle. Donc, cette définition, en quelque sorte, postule la lisibilité d'une narration où les lieux parcourus et les personnes rencontrées défilent à une allure plus ou moins rapide, mais sans que leur identification des lieux ou des personnes rencontrées soit compromise. C'est parce que la narration tisse des liens entre les éléments géographiques et historiques que l'écheveau narratif que constitue le journal de voyage va prendre sens. Donc le journal de voyage se définirait comme la transcription d'un itinéraire constitué d'étapes, mais ça c'est assez classique hein, dans les définitions, aboutissant à, et je cite Louis Marin, qui est cité d'ailleurs par beaucoup de spécialistes des journaux de voyage, par un réseau ponctué de noms et de descriptions locales qu'un parcours du diariste, fait sortir de l'anonymat et dont il expose l'immuable préexistence. Je trouve que c'est une très belle définition de Louis Marin dans Utopique, jeu d'espace, un ouvrage paru en 1973, donc c'est pas tout récent. Moi, j'ai travaillé déjà sur une dizaine de journaux de voyage d'auteurs connus. Donc ce sont des journaux qui ont été publiés, soit du vivant des auteurs, soit de façon posthume, dont la moitié à peu près ont voyagé au Québec et au Canada anglais, d'ailleurs pour la plupart, dans la période sur laquelle vous travaillez, disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, du tournant du siècle, à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je voudrais dire, pour faire peut-être un premier lien avec les propos de Catherine, c'est qu'effectivement, sont des intellectuels reconnus, hein, français, lisent beaucoup, profitent de l'occasion donc de leur traversée transatlantique pour lire. Alors je donne deux exemples, mais on pourrait les multiplier. André Siegfried, donc, qui est un essayiste, mais qui a également écrit un journal de voyage, dont je parlerai un peu plus, un voyage en 1914 en Amérique du Nord, qui est un journal de voyage, stricto sensu. On sait par Édouard Monpetit, qui est donc son alter ego entre guillemets canadien, mais ils se croisent ou ils se retrouvent dans les mêmes traversées, puisqu'ils viennent souvent l'un au Canada, l'autre en Europe. Et Édouard Monpetit dit, mais j'essaie de voir André Siegfried, parce qu'il le connaît, il le connaît relativement bien, mais je ne le vois jamais sur le bord. Et il nous dit dans ses souvenirs, il ne le voit jamais parce que André Siegfried écrit ses ouvrages dans sa cabine. Il ne sort pas. Donc lui écrit, mais pour écrire il faut lire, comme on le sait bien, donc on imagine que s'il écrit, il lit également. Et le deuxième exemple, c'est le journal publié de façon posthume dans une série, ce qu'on appelle les carnets de Monseigneur Baudrillard, mais il y a à peu près 300 pages sur son voyage en Amérique du Nord, donc il a voyagé aux États-Unis puis au Canada. Puis aux États-Unis, au Canada, puisqu'il fallait passer par New York pour aller au Canada. Donc un voyage de 1928. Et Monseigneur Baudrillard, recteur de l'Institut catholique de Paris, profite de la traversée de l'Atlantique pour lire Maria Chapdelaine au départ, donc dans le sens Europe-Amérique. Et au Canada, à Montréal, quelqu'un, on ne sait pas qui, ne précise pas, lui remet un exemplaire de Jean-Charles Lemagne Braque, qui vient d'écrire un essai qui s'appelle « L'évolution du Canada français ». Et donc, Monseigneur Baudrillard pousse la hardiesse jusqu'à lire, pendant toute sa traversée retour, l'ouvrage de ce protestant, donc qui enseigne dans un collège anglophone du Canada. Donc...
Il y a peut-être un entre-deux aussi. Vous dites il pousse la hardiesse jusqu'à le lire. Il est seul, il est hors un peu de tout contrôle.
Voilà, exactement, oui, tout à fait. Donc, voilà, en gros, je voulais peut-être citer quelques noms. Donc, André Siegfried, Alfred Baudrillard, Monseigneur Baudrillard. Il y a aussi, dans l'entre-deux-guerres, et peut-être plus connu, encore beaucoup plus connu sans doute par les littéraires, c'est le journal de voyage de Maurice Genevoix, donc, qui a été publié pendant la guerre. Il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs rééditions, mais qui est un journal de voyage écrit à partir de sa traversée du Canada, coast to coast, en 1939. Il s'appelle Canada, d'ailleurs. Il a écrit toute une série de romans et nouvelles à la suite de ce séjour canadien. Mais il en a aussi... il a pu également en tirer un journal de voyage qui a, semble-t-il, eu un succès important. Je parlais des rééditions, mais aussi au Canada. Il a été beaucoup lu parce qu'il était déjà un auteur reconnu en France et au Canada. Donc sa notoriété facilitait la découverte du journal de voyage par des lecteurs canadiens, français ou canadiens, anglais. Je reviens là, excusez-moi, à cet aspect décousu. Quel est le point de vue que j'aimerais privilégier dans ce numéro thématique, si jamais il est accepté par le comité de rédaction de la revue? C'est un thème sur lequel j'ai déjà travaillé, mais qui est un thème très large, qui est le rapport entre idéologie et connaissance. Et là aussi, il y a un lien direct avec ce que nous a précisé Catherine Berthaud l'avenir sur le fait que même des romans ou des essais qui peuvent paraître traditionnalistes, conservateurs, sans intérêt ni esthétique ni argumentatif, et qui rentreraient dans la catégorie de l'idéologie, c'est-à-dire en gros de l'idéologie comme méconnaissance, bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que même s'il y a évidemment des grilles idéologiques, il faut peut-être chercher ce que ces grilles idéologiques peuvent contenir de connaissances, de production de connaissances. Et donc le journal de voyage est, me semble-t-il, un excellent terreau pour interroger ce rapport entre idéologie et connaissance. Il faut dire là que le journal de voyage, souvent, et même le récit, mais bon, journal plus particulièrement, a été maltraité pendant très longtemps, que ce soit en études littéraires ou dans les sciences humaines et sociales, soit relégué comme un genre mineur, soit considéré par les spécialistes sciences humaines et sociales comme un document contrefait et dont il fallait se méfier tout particulièrement. Donc c'était en quelque sorte un document à prendre avec des pincettes. Et c'est vrai que à partir de, disons, de Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, mais surtout, je pense à Michel de Certeau, donc quelques années après, lorsqu'il a repris l'histoire du voyage en terre de Brésil de Jean de Léry, on s'est rendu compte que le journal de voyage était un outil de connaissances historiographiques tout à fait irremplaçable. Mais même Claude Lévi-Strauss est assez ambigu dans Tristes Tropiques, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut lire Jean de Léry comme un littéraire, comme une œuvre littéraire, mais ce n'est pas de l'ethnographie. Or, Michel de Certeau est, lui, beaucoup plus subtil. Donc, dans son ouvrage 75 sur l'écriture de l'histoire, il y a un chapitre qui est consacré à cet explorateur Jean de Léry, qui va dans cette terre de Brésil conquise par des protestants français. C'est l'amiral de Coligny qui envoie une petite flotte découvrir et explorer ces terres. Et Jean de Léry, donc, est considéré maintenant aujourd'hui comme une sorte de modèle de pré-ethnographie. Et je crois que c'est grâce à Michel de Certeau qu'il est pris comme tel. Donc la question de l'altérité se pose bien évidemment. Alors, face à des Amérindiens du Brésil, ça paraît évident, mais moi je dirais qu'elle se pose également à des Français face à des Canadiens français. Et que la perception de l'altérité est également une question clé des journaux de voyage, même lorsqu'il y a une proximité apparente ou réelle entre le diariste et les personnes, intellectuelles ou non, qu'il rencontre lors de ses voyages. Donc je dirais en gros qu'il y a dans les journaux de voyage ce que Svetlan Todorov appelle des textes culturels cachés, hein, où derrière le journal on voit il y a des sortes de je dirais des trames idéologiques dont il faut prendre compte, qu'il faut analyser, mais il y a également une sorte de comparatisme de voyage qui sous-tend très souvent, la plupart du temps, un registre de cognition multiple et complexe. Et que donc s'arrêter au texte culturel caché, c'est souvent se priver de cette deuxième dimension, ce registre de cognition. Alors comme je l'ai dit, j'y ai fait allusion, en ce qui concerne les voyageurs français au Canada, ce comparatisme est favorisé par le fait que avant d'arriver au Canada, ils transitent, ils ont longtemps transité par les États-Unis. Et bien des remarques faites par les diaristes français se focalisent sur le contraste qu'ils considèrent comme très fort entre les États-Unis et le Canada français. Un autre élément, disons, de tentative de cadrage théorique, c'est que si le voyage peut s'énoncer lui-même comme lecture comparée, hein, beaucoup de travaux littéraires nous montrent qu'on peut prendre le voyage, bon, en termes de métaphore, mais de métaphore productive au niveau du sens, comme lecture comparée, c'est parce que le journal est susceptible de mettre en regard le monde et le corpus de textes qui en proposait une première formulation. Je cite Christine Montalbetti dans son ouvrage « Le voyage, le monde et la bibliothèque » paru en 1997 aux Presses universitaires de France. Donc, cette idée que les journaux de voyage, en consignant des faits observés, des impressions et des lectures préalables, fournissent des connaissances à la fois intertextuelles et sociographique. Sa dimension sociographique s'appuyant sur une écriture référentielle, même si cette écriture référentielle est parfois parasitée par des résidus insolubles d'ordre fictionnel. Mais résidus insolubles, là aussi je reprends cette expression qui me paraît intéressante à Christine Montalbetti. Donc il y a en quelque sorte un télescopage entre cette écriture référentielle basé sur des éléments factuels et ces résidus insolubles qui renverraient à une écriture de type fictionnel. Donc les diaristes se livrent eux-mêmes à des interprétations qu'il s'agit de réinscrire dans leur contexte d'énonciation, mais la prise en compte de ce contexte n'équivaut pas simplement à une mise en situation qui se contenterait de, disons, brosser un arrière-fond censé constituer un préalable à l'analyse. Cette prise en compte donc du contexte doit également, me semble-t-il, enclencher une opération itérative de nature à saisir les conjonctions, les interférences et les affrontements entre mouvement du monde tel qu'il est vu par le diariste et le mouvement de la conscience du diariste lui-même. Donc écriture de soi et rapport à l'autre, ça, c'est aussi une problématique assez courante. Analyser un journal, ce que nous nous proposons de faire, je pense que l'exercice livré par Catherine Berthaud, l'avenir, est assez symptomatique de ça. Analyser un journal revient finalement à produire une interprétation seconde, quels que soient les garants dont on se dote. C'est qu'au même titre que le diariste, l'analyste est soumis à des filtres et à un contexte, si outillé soit-il, pour en neutraliser les effets. Alors pour terminer, je voudrais rapidement présenter ce projet que je voudrais soumettre à la revue Recherche Graphique. Il y a eu déjà des anthologies qui ont défriché et balisé le terrain. Donc je pense particulièrement pour le Canada anglais à Gwen Gattenby, donc Canada Through the Eyes of Foreign Writers, et au très beau ouvrage, la recension donc qu'a publié Luc Bureau, Pays et mensonges, le Québec sous la plume d'écrivains et de penseurs étrangers. C'est dans cette même veine, mais en y incluant aussi des corpus de journaux non publiés, rédigés par des auteurs anonymes, que je voudrais cerner deux voies complémentaires qui impliquent une attention au contexte, toutes les deux. Celle des trames idéologiques et de leur historicité, et celle des modes singuliers de connaissance que les journaux de voyage recèlent. Avec cette hypothèse qui paraît évidente, mais qui n'est peut-être pas si facile que ça à argumenter dans des articles à visée scientifique, c'est donc de montrer que ces modes singuliers de connaissance sont irréductibles à ceux convoqués dans l'essai, dans les monographies ou dans les écrits théoriques. Je ne voudrais pas entrer dans le détail des analyses que j'ai commencé à faire parce que ça nous amènerait trop loin et que je voudrais laisser du temps pour le débat. Mais je pense qu'il est aussi intéressant de faire des typologies de journaux de voyage parce que la typologie, c'est un outil assez primaire mais qui permet de dégager le terrain, hein, c'est-à-dire d'avancer un petit peu et d'affiner une problématique. Je pense qu'il y a des typologies plus complexes que celles que je vais proposer, et celles que je vais proposer est vraiment sommaire, mais il y a des diaristes qui acquittent une commande, et par exemple le journal d'André Siegfried de 14, c'est une commande à un journal qui s'appelle Le Havre. Il va dans un premier temps publier son journal dans le Havre, puis après le recueil de ses articles sera publié. Quelques temps après, plusieurs mois après. Il y a des journaux de voyage qui correspondent à des commandes, mais des commandes orientées, où le ou les diaristes sont en quelque sorte amenés à effectuer un portrait flatteur. C'est le cas des missions d'études confiées par exemple par le Comité France-Amérique, où il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui une obligation de résultat. On ne peut pas se permettre de d'émettre des réserves, il faut que le tableau soit vraiment dithyrambique. C'est le cas d'un ouvrage qui est par ailleurs intéressant, mais de Gabriel-Louis Jarret et Louis Hurtig, de Québec à Vancouver à travers le Canada d'aujourd'hui, qui date de 1924, où effectivement on a l'impression que tout est beau, hein, au Canada. C'est le paradis sur Terre et on se demande pourquoi les Français n'émigrent pas plus en masse au Canada. Il y a un type qui serait celui de l'introspection. L'introspection pouvant mener au renforcement de ses propres convictions ou au contraire au fait qu'elles soient ébranlées. Et j'ai l'impression, effectivement, Catherine Berthaud-Lavenir l'a deviné, que Mgr Alfred Baudrillard revient des États-Unis et du Canada en étant un peu ébranlé. Notamment par rapport, il a fait une grande conférence, il y a énormément de monde, sur l'âme française à Montréal, et il se demande ce que c'est l'âme française dans son journal. Il se dit, mais est-ce que la confrontation au Canada français ne m'amène pas à rajouter ou à enlever, selon le cas, ce qui me paraissait être constitutif historiquement de l'âme française. Et enfin, il y a ce que j'appellerais, mais c'est vraiment grossier, vous avez trouvé ça grossier, mais excusez-moi, je pense qu'on peut affiner beaucoup cette typologie, ce que j'appellerais des journaux qui ont un statut résiduel, et souvent ce sont des romanciers hein, qui les écrivent, ce sont des journaux pris comme des compléments, ou comme des sources, ou des moteurs de la fiction. Maurice Genevoix, c'est tout à fait évident. Mais dans une période qui vous concerne pas, c'est également le cas de Michel Tournier, lorsqu'il vient passer 2 ou 3 semaines au voyage éclair, hein, où il traverse lui aussi, comme Maurice Genevoix, tout le Canada. Et il écrit un roman qui est très connu, hein, Les Météores. 75, Gallimard. Et il fait paraître son journal de voyage 2 ans après, en 77. Canada, journal de voyage, illustré par des photographies d'Edouard Bouba. Mais là, on pourrait rajouter un autre type ou faire des sous-types. Hein. Vous voyez qu'on peut jouer sur les types, faire des sous-types. Ce sont les diaristes qui sont accompagnés de photographes. Et bon, au Canada, c'est peut-être pas si fréquent, mais c'est assez fréquent ailleurs, au Moyen-Orient, en Afrique. Voilà, alors je m'arrête là parce que j'avais quelques études de cas, mais je voudrais pas monopoliser la parole et je vous la laisse. Si vous avez des questions ou des commentaires.